Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit de Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS Radio. Il est 13h à Sydney, Melbourne, Canberra et Brisbane, 11h à Perth. Avec vous aujourd'hui, Léo Roussel, j'aurai le plaisir de vous accompagner pendant une nouvelle heure d'émission. Au programme ce mardi, on fera bien évidemment un point sur l'actualité avant de parler sport avec Christophe Mallet. Comme chaque semaine, on s'intéressera également à l'actualité politique avec Patricia Meunier. Puis on vous proposera un reportage à l'école bilingue de Killarney Heights, au nord de Sydney, où l'on parlera du jumelage entre l'école et un collège de Tahiti. Nous vous proposerons également un document extrait de nos archives, une interview d'Amadou Bagayoko, le chanteur du duo malien Amadou et Mariam, décédé vendredi dernier à l'âge de 70 ans. Il s'était entretenu avec SBS French en 2013. En fin d'émission, vous découvrirez également un nouveau reportage de notre radio partenaire RFI. De plus en plus de personnes font le choix de se séparer de leur véhicule Tesla. Reportage à Paris. Mais pour l'instant, il est 13h, passé de 1 minute sur SBS Radio. Et c'est l'heure de votre journal. À la une de l'actualité de ce mardi 8 avril, journée noire pour les marchés boursiers ce lundi, alors que Donald Trump multiplie les annonces de taxes douanières, les bourses s'affolent et chutent de manière importante en Europe et en Asie. Le Croissant Rouge palestinien réclame des réponses à Israël après la mort de 15 secouristes dans la bande de Gaza le mois dernier. Le président du Croissant Rouge accuse l'armée israélienne d'avoir intentionnellement ciblé l'équipe de secouristes, dont un membre reste aujourd'hui porté disparu. Et puis en Australie, le Premier ministre Anthony Albanese affronte ce soir le leader de l'opposition Peter Dutton dans un premier débat télévisé. La campagne pour l'élection fédérale du mois prochain est plus que jamais lancée. Une journée noire ce lundi pour la plupart des bourses mondiales, la faute à la guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump et à ses nombreuses annonces de droits de douane survenues ces derniers jours. Les bourses européennes et asiatiques ont terminé ce lundi sur d'importantes chutes. La bourse de Paris a de son côté dévissé de 4,78%. Elle n'avait plus connu de pareilles chutes depuis mars 2022. À Wall Street, aux États-Unis, on évoque une situation extrêmement volatile. Dans la nuit de dimanche à lundi, le cours du pétrole a également chuté. Le baril américain est descendu sous les 60 dollars pour la première fois depuis avril 2021. Et la situation pourrait ne pas se calmer de sitôt. Donald Trump a menacé d'alourdir encore les droits de douane sur les produits chinois, notamment si Pékin maintient sa riposte à son offensive douanière. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé à Washington une exemption de droits de douane totale et réciproque pour les produits industriels afin de tenter d'éviter une guerre commerciale. Le Croissant Rouge palestinien maintient ses accusations contre l'armée israélienne après la mort de 15 secouristes dans la bande de Gaza le mois dernier, alors qu'Israël a livré sa version des faits ce lundi, déclarant que l'incident s'est produit en raison d'un sentiment de menace. Le président du Croissant Rouge en Cisjordanie a affirmé que les secouristes ont été visés par des tirs intentionnels de l'armée israélienne. Lors d'une conférence de presse tenue hier à Ramallah, le Croissant Rouge a présenté une vidéo supposément tournée par l'un des secouristes avant de mourir. Celle-ci contredirait la version israélienne des faits. Le président du Croissant Rouge, Younis Al-Khatib, demande des comptes à l'État hébreu.
Il y a tellement de questions que l'on voudrait poser aux Israéliens. Pourquoi ont-ils été tués ? Oui, pourquoi ont-ils été tués ? Pourquoi avoir détruit les ambulances après les avoir tués ? Pourquoi avoir caché les corps ? Pourquoi ? Beaucoup de pourquoi.
Et les secouristes avaient été abattus le 23 mars dernier et retrouvés enterrés dans des fosses peu profondes près de Rafah quelques jours plus tard. Un 16e secouriste reste porté disparu à ce jour. Le président américain Donald Trump a reçu hier le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Il a réitéré sa volonté de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Une proposition répétée à plusieurs reprises au cours des premières semaines de son mandat est largement condamnée à l'international comme un plan de nettoyage ethnique. Une partie de sa proposition prévoit notamment de déplacer les Palestiniens vers différents pays. Une idée soutenue par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Lundi, Donald Trump a une nouvelle fois fait référence à Gaza comme un bien immobilier, ajoutant que l'enclave palestinienne pourrait être transformée en une zone de liberté.
I think it's something that we would be involved in, but you know, having a peace force like the United States there, controlling and owning the Gaza Strip would be a good thing. Because right now, all it is for years and years, all I hear about is killing and Hamas and problems.
Le président américain et le premier ministre israélien ont indiqué à l'issue de leur entretien travailler sur un nouvel accord de cessez-le-feu à Gaza. Israël avait mis fin le 18 mars dernier à 2 mois d'une trêve pour le moins fragile dans l'enclave palestinienne. Le président français Emmanuel Macron est lui actuellement en visite en Égypte où il doit apporter son soutien au plan arabe pour Gaza. Il s'est entretenu hier avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Lors d'une conférence de presse, il a appelé au retour d'un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages par le Hamas.
Nous condamnons la reprise des frappes israéliennes à Gaza qui constitue un recul dramatique pour la population civile, les otages, leurs familles et l'ensemble de la région. Nous appelons à un retour immédiat au cessez-le-feu, à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza. Les négociations doivent reprendre sans délai et de manière constructive. Et à cet égard, je veux saluer les efforts inlassables déployés par l'Égypte.
En Australie, le Premier ministre Anthony Albanese et le leader de l'opposition Peter Dutton s'affrontent ce soir pour leur premier débat télévisé dans le cadre de la campagne pour les élections fédérales australiennes du mois prochain. Les deux leaders seront interrogés par un panel de 100 électeurs indécis lors d'un forum organisé à Sydney. Les questions devraient porter sur les pressions liées au coût de la vie, sur le logement, sur la santé et sur les effets des taxes douanières imposées par le président américain Donald Trump. Ce premier affrontement entre le leader du Parti travailliste et le leader de la coalition sera diffusé sur Sky News à 19h30 ce soir. Et le Premier ministre australien a été invectivé ce mardi lors d'une conférence de presse sur la santé mentale à Ashfield, à l'ouest de Sydney. Une militante du mouvement Rising Tide, qui réclame davantage d'actions en faveur du climat, a dénoncé la politique du Parti travailliste. Elle a notamment fait allusion à l'approbation de nouveaux projets d'exploitation de gaz et de charbon par le gouvernement lors du premier mandat d'Anthony Albanese. Au cours de la conférence de presse, le psychiatre Patrick McGorry avait déclaré que le changement climatique était l'un des principaux problèmes affectant la santé mentale des jeunes. On écoute la militante.
Well, today Prime Minister Albanese was having a press conference saying how much he cares about young people. And yet his government, since getting elected, have approved 33 new coal and gas projects. And we know that these approvals are fueling dangerous climate change that's going to have devastating impacts on the futures of me and all young people.
Un vaste mouvement de grève chez les médecins de l'État de Nouvelle-Galles du Sud ce mardi. Des milliers de médecins ont fait le choix de débrayer pour réclamer une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail dans l'État. Le syndicat qui a annoncé la grève la semaine dernière réclame une augmentation de salaire de 30% sur un an et de 3% les années suivantes afin d'aligner les salaires sur ceux des autres États. Le gouvernement a riposté en proposant une augmentation de 10,5% sur 3 ans et une offre de 3% dès maintenant avec effet rétroactif en cas d'annulation de la grève. On écoute le docteur Mark Priestley, un médecin à l'hôpital de Westmead et conseiller de la Fédération australienne des médecins salariés.
We want parity with other states so that our junior doctors don't leave to go elsewhere. And we want simple conditions within the award so that an obstetrician who comes to deliver a baby can get paid for coming in after hours. We want simple things that any man in the street, any patient, would expect and exists in other states.
Un point sur la météo avant de refermer ce journal. Quelques averses sont attendues ce mardi du côté de Sydney avec des températures qui atteindront 23 degrés. Pas de pluie mais un temps plutôt nuageux attendra Melbourne et Canberra où le thermomètre affichera respectivement 19 et 22 degrés. Brisbane passera là aussi la journée sous un temps partiellement couvert mais il fera plus chaud avec 28 degrés. Il fera beau et chaud en revanche à Cairns sous 31 degrés mais aussi dans l'ouest du pays à Perth avec 27 degrés attendus. Enfin, Adélaïde passera la journée sous un ciel dégagé et sous 23 degrés. Il est 13h15 sur SBS Radio, vous écoutez le programme en français. Tout de suite, c'est l'heure du journal des sports avec Christophe Mallet.
Journal des sports et on débute avec du football et le sacre du Paris Saint-Germain après leur victoire 1-0 face à Angers. Le Paris Saint-Germain est champion. On écoute le capitaine du PSG, Marquinhos.
C'est fou, c'est fou. Très heureux, je pense que rester beaucoup de temps comme ça dans une équipe de haut niveau, c'est vraiment un challenge. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi. Je pense qu'il y a les titres qui viennent avec. Ça va rester dans l'histoire. De plus en plus, on a l'ambition de tout gagner. Et le championnat de France, ça fait partie parce que ça fait trop plaisir de le gagner. Quand on ne gagne pas, ça fait mal. Alors il faut le prendre. Ça fait plaisir. C'est un travail toute une saison, une régularité qu'il faut l'avoir. Et l'équipe, elle mérite ça.
Le défenseur et capitaine donc de cette équipe championne de France, Marquinhos, le PSG, après cette victoire 1-0 contre Angers. On écoute d'ailleurs une autre réaction sur la victoire du Paris Saint-Germain et ce titre donc avec l'ancien capitaine du PSG, Alexandre Rabensandratana.
Un titre de champion de France, c'est tout un travail d'une saison, surtout que les mentalités ont changé, la prestation et le spectacle qu'on peut observer a changé aussi. Donc franchement, non, c'est un beau titre, évidemment qu'on aimerait avoir un peu plus de résistance en face, mais en tout cas pour la prestation des Parisiens, c'est plutôt très très bien. Ouais. Surtout que aujourd'hui, ce Paris Saint-Germain joue les matchs jusqu'au bout, avec le bon état d'esprit, sans prendre de haut son adversaire. De temps en temps, il y a quand même un peu trop de facilité, mais c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que c'est très facile pour eux, mais voilà, ils font ce qu'ils doivent faire avec le bon état d'esprit, l'engagement, et puis c'est comme ils sont presque en mission. C'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui on a changé un petit peu d'ambition en se disant que peut-être cette année ils sont capables d'aller encore un peu plus loin en Ligue des Champions parce que l'état d'esprit il est là et que la régularité aussi, donc on espère quand même de voir au moins des belles prestations jusqu'à ce que ça s'arrête, on va dire.
C'était donc Alexandre Rabensandratana, ancien capitaine du PSG. Les autres résultats de la journée, 28e journée de cette Ligue 1, Nantes qui bannit sur le score de 2-1, Brest bat Monaco sur le score de 2-1 également. 2-1, c'est le même score pour Lyon face à Lille. Lens bat Saint-Etienne 1-0, Le Havre bat Montpellier 2-0, Auxerre bat Rennes 1-0, Strasbourg bat Reims sur le score de 1-0, et 3-2, c'est la victoire de l'OM. Marseille qui renoue donc avec la victoire face à Toulouse. On écoute Geoffrey Kondogia sur cette victoire qui fait du bien au club phocéen.
On est plutôt content parce que la réalité c'est qu'il y avait 3 défaites, donc là on retrouvait notre public. L'important c'était de gagner et de retrouver les 3 points. Je crois qu'on y a mis les ingrédients. Certainement on aurait pu mieux faire aussi ce soir, mais le positif c'est la victoire et une équipe qui était unie avec plein de caractère. La clé c'était de simplement être nous-mêmes, c'est-à-dire jouer avec nos atouts quand on a le ballon, essayer d'insister sur les côtés et de faire attention aussi au contre-attaque, donc c'est ce qu'on a essayé de faire. On a joué face à une équipe qui allait très vite vers l'avant avec des joueurs offensifs qui vont très vite. Donc on a essayé de contrer tout cela et ça nous a souri ce soir.
Geoffrey Kondogia, donc le milieu de terrain de l'OM. Au classement, le Paris Saint-Germain est donc champion, 74 points. Donc deuxième Marseille qui reprend sa deuxième place avec 52 points devant Monaco, troisième 50 points. Strasbourg est quatrième avec 49 points et Lyon est cinquième avec 48 points. En bas de classement, Reims est 16e avec 26 points. Saint-Etienne est 17e avec 23 points. Et le dernier, la Lanterne Rouge, est déjà condamné à descendre en Ligue 2. C'est Montpellier, 18e avec 15 points. Allez, on parle de cyclisme. Ce week-end, c'était l'une des plus grandes courses du calendrier cycliste, à la fois masculin et féminin. C'était le Tour des Flandres. Superbe course en Belgique avec une victoire dans le Tour des Flandres féminin de la championne du monde Lotte Kopecky, qui domine la Française Pauline Ferrand-Prévot au sprint. Donc Lotte Kopecky sur une victoire logique dans ce Tour des Flandres. Chez les hommes, eh bien, c'est le champion du monde également qui a gagné cette course. On l'attendait largement au tournant, c'est Tadej Pogacar. On l'écoute.
Oui, c'était une course incroyable, une journée incroyable, et je suis vraiment, vraiment fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. On a connu un peu de malchance pendant la course, mais je suis heureux que tout le monde se soit donné à 100%, plus de 100% même. Et ça m'a donné beaucoup de motivation de porter et de gagner avec ce maillot de champion du monde ici en Flandre. L'ambiance avec tous ces fans était incroyable.
Tadej Pogacar, donc vainqueur de ce Tour des Flandres, devant un surprenant Mats Pedersen, qui a été très très bon tout au long de la course, et Mathieu Van de Poel. Mathieu Van de Poel qui finit troisième. Il a eu une chute plus impressionnante qu'importante, à peu près au milieu de la course de ce Tour des Flandres, mais pour lui, ça n'a rien changé, on l'écoute.
Ah, ça va, c'était l'épaule qui était touchée un peu, mais je pense que j'ai eu de la chance encore parce qu'on allait bien vite quand la chute est arrivée, mais ouais, j'étais un peu coincé, donc j'avais pas de sortie pour essayer de sauver. Ouais, c'était pas idéal. Je suis heureux d'être sur le podium, j'avais pas les jambes que j'espérais, mais je pense que... Ouais. On s'est bien battu avec toute l'équipe pour faire un joli résultat et je suis heureux d'être sur le podium encore de nouveau.
Mathieu Van de Poel sur son Tour des Flandres, il est content de faire podium. On l'écoute d'ailleurs sur un autre commentaire par rapport à Tadej Pogacar. Pour lui, c'est réellement le meilleur cycliste du monde.
Ouais, mais pour moi, c'est pas vraiment une surprise. Je pense on a vu ça il y a deux ans aussi, qu'il était vraiment fort et ouais, c'est le meilleur coureur du monde à l'instant, donc ouais, je pense qu'il mérite de gagner.
En tout cas, en ce moment, le meilleur cycliste du monde pour Mathieu Van de Poel, c'est Tadej Pogacar. Et ça conclut le journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on revient dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Tout de suite, c'est l'heure de parler de l'actualité politique de la semaine avec Patricia Meunier. Et bien évidemment, on en parlait dans le journal de l'actualité, elle est marquée par les annonces massives de taxes douanières par le président américain Donald Trump sur les importations des États-Unis.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Comme chaque mardi, la semaine politique avec Patricia Meunier. On revient sur l'onde de choc des annonces de Donald Trump qui a continué de secouer le monde. Les bourses internationales sont en recul, les bourses australiennes sont en recul. C'est une certaine incertitude qui règne. Et en Australie, donc, le gouvernement ne va pas riposter aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis comme l'ont fait la Chine en guise de représailles. Patricia Meunier.
La guerre commerciale déclenchée mercredi dernier par Donald Trump n'a pas fini de secouer le monde. On écoute le président américain Donald Trump.
It's to be expected. This is a patient that was very sick. We really inherited a terrible economy. It was a sick patient. It went through an operation on Liberation Day, and it's going to be a booming country.
La nervosité règne. Les marchés des actions mondiaux ont connu un mini crack, affolés par les craintes de représailles des autres pays. C'est la Chine qui a ouvert les feux. L'Empire du Milieu a annoncé sa riposte aux tarifs douaniers américains. Il va imposer à hauteur de 34% tous les produits en provenance des États-Unis. Le gouvernement chinois a également déposé plainte à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. L'Australie n'a pas eu d'exemption. Les États-Unis ont confirmé l'imposition d'un tarif douanier général de 10% sur tous les produits australiens. En revanche, les taxes ciblées sur les importations de produits pharmaceutiques ne sont pas encore concrétisées, ce qui n'est pas le cas du bœuf australien. On écoute le président américain.
They ban American beef, yet we imported $3 billion of Australian beef from them just last year alone. They won't take any of our beef. They don't want it because they don't want it to affect their farmers. And you know what? I don't blame them, but we're doing the same thing right now, starting about midnight tonight.
En Australie, les importations de bœuf en provenance des États-Unis sont restreintes depuis des années en raison de la biosécurité très stricte sur le continent. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que cela n'était pas prêt de changer. Reste que l'Australie a obtenu de meilleurs résultats que de nombreux autres pays, certains étant confrontés à des tarifs douaniers allant jusqu'à 50%. Pour l'instant, le Premier ministre estime que ces droits de douane ont un impact négatif sur la relation avec les États-Unis.
For Australia, these tariffs are not unexpected, but let me be clear, they are totally unwarranted. President Trump referred to reciprocal tariffs. A reciprocal tariff would be zero, not 10%. The administration's tariffs have no basis in logic, and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend.
Anthony Albanese affirme que son gouvernement ne ripostera pas avec des droits de douane réciproques. Il n'y voit pas une solution pour l'avenir, mais plutôt un risque de hausse des prix et un ralentissement de la croissance. Il se veut cependant rassurant, le gouvernement ne va pas rester sans rien faire. Le chef de l'opposition, Peter Dutton, a réaffirmé que le Premier ministre n'a pas bien défendu les intérêts australiens.
I do believe that we could have achieved a different outcome. Firstly, I think there's no doubt that we would have had greater connection and greater communication with the White House.
Il ne s'agit pas de couper les liens avec la première économie mondiale, mais de moins en dépendre. Sur le vieux continent, l'Union européenne a choisi de montrer les muscles dès l'entrée en vigueur des droits de douane américains. Elle a décidé de lister des biens américains pour le même montant qui seront taxés à partir de la mi-avril. L'administration de Donald Trump dispose des pleins pouvoirs au moins jusqu'aux élections de mi-mandat à la fin 2026. Même si cette date est proche, les dommages qu'elle est en train de réaliser laisseront des traces durables.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Vous êtes toujours sur SBS Radio, vous écoutez le programme en français, il est 13h33. On vous emmène maintenant à l'école bilingue de Killarney Heights au nord de Sydney, dans le cadre d'un échange avec le collège-lycée de Papeete. Des élèves tahitiens viennent de passer une semaine à Sydney. Un reportage à retrouver juste après une courte pause dans le programme en français.
Des danses et des chants traditionnels tahitiens, c'est ainsi que les élèves du collège-lycée Lamene de Papeete ont fait part de leur gratitude à l'égard de leurs camarades de l'école bilingue de Killarney Heights, dans le nord de Sydney. Depuis une semaine, des élèves de 3e sont en immersion dans cet établissement scolaire australien, hébergé par les parents d'élèves qu'ils avaient reçus chez eux à Tahiti l'année dernière. Et comme le reste de ses camarades, Judith est très contente de cette initiation à l'Australie.
Ça se passe très bien. Moi, je suis très heureuse d'avoir pu participer à cet échange. C'est très enrichissant. Je découvre plein de choses sur d'autres cultures et sur ma famille d'accueil. Ouais, c'est super.
Une nouvelle culture, de nouveaux paysages, mais aussi la possibilité de découvrir un système scolaire très différent de celui qu'ils connaissent et qui n'est à vrai dire pas pour déplaire à Judith.
C'est très différent le système scolaire français et l'Australie. C'est très différent les règles et et les cours. Bah déjà, ils peuvent amener leur ordinateur en cours et ils travaillent beaucoup avec la technologie. Alors qu'en France, c'est plus toujours avec les cahiers, les stylos, et ils font moins de cours en soi. Enfin, ils écrivent moins sur leur cahier ou ordinateur. Ils font plus d'exercices et ils parlent plus que nous. Alors que nous, on écoute plus et on écrit plus. Donc, ouais.
Ça te semble mieux ou bien ?
Personnellement, je préfère le système australien parce que je trouve que ça permet aux élèves de vraiment s'enrichir avec ce qu'ils apprennent au lieu d'écrire. Parce que quand on écrit, on comprend pas forcément. Alors que là, ils sont plus dans l'apprentissage avec des exercices, et donc je préfère.
La correspondante chez qui elle est hébergée, Désirée, a elle aussi été très marquée par son séjour à Tahiti. La beauté des paysages, le rythme de vie très différent, on s'y lève très tôt pour éviter la chaleur qui peut être écrasante, mais aussi les bouchons. Mais pour Désiré, cela aussi a été l'occasion d'améliorer encore un peu plus son niveau de français, pourtant déjà excellent.
Ma mère, elle est française, du coup je parlais déjà français, mais je crois que mon accent, ça a vraiment changé un peu. Et ouais, je crois que j'ai vraiment compris ce qu'il disait avec un accent français. Ouais, ouais.
Les correspondances entre élèves issus d'écoles de différents pays, c'est plutôt courant en Europe, mais c'est beaucoup plus rare en Australie. C'est ce que rappelle Sonia Robbins, professeure de français à Killarney Heights, et qui rend donc, selon elle, ce jumelage entre ces deux écoles particulièrement précieux.
On a déjà vu des échanges, mais dans un sens. Ça aussi, c'est très bien. C'est ce que moi, j'ai fait quand j'avais 15 ans, aller en France. Mais le fait de pouvoir faire un jumelage où on va chez eux et puis on reste chez le correspondant, et c'est le même correspondant qui vient chez nous, il reste chez nous, ça, c'est quelque chose de très spécial. Parce que là, il y a des vrais... de vraies amitiés qui se créent, et puis on espère que ce sera une relation qui dure beaucoup plus longtemps que le temps qu'un an ou que 6 mois, que c'est quelque chose qui dure pas la vie, quoi.
Un discours qui, à vrai dire, entre en totale résonance avec celui prononcé par la proviseure adjointe de Killarney Heights.
It's a privilege to be here today as we welcome our friends from Tahiti. Welcome. Thank you so much for being here today.
Okay.
There is a power in this moment, something bigger than an exchange program or a school visit, because in welcoming each other, in opening our homes and hearts, we're recognizing a truth that runs deeper than language, culture, or geography. The simple but profound reality of a shared humanity.
Tandis que les filles du collège Laménée ont réalisé une danse célébrant la beauté de la Polynésie française, les garçons, eux, présentent aux Australiens un haka. Parmi les danseurs, il y a Marvin, très fier d'avoir pu mieux faire connaître son pays à ses camarades australiens.
J'ai vraiment l'impression que c'est en leur montrant, en leur disant Tahiti, c'est au milieu du Pacifique, c'est une toute petite île, que là ils ont compris, ils ont appris de Tahiti.
Mais Marvin confirme que cet échange culturel a quand même une limite que rien, a priori, ne pourra jamais permettre de surmonter.
Bon, la famille avec qui tu restes, est-ce qu'ils ont réussi à te convertir au Vegemite ?
Non, toujours pas. Ça, je pense pas qu'ils réussissent malheureusement à me convertir, mais c'est pas grave.
Les élèves tahitiens du collège Laménée quitteront Sydney mercredi, mais les liens qu'ils ont forgés ces derniers jours avec leurs nouveaux amis australiens de Killarney Heights dureront, eux, sans doute, beaucoup plus longtemps.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
On vous en parlait en début d'émission, le chanteur du duo Amadou et Mariam, Amadou Bagayoko, est décédé vendredi dernier à l'âge de 70 ans. On vous propose de redécouvrir une interview accordée à SBS French par le chanteur malien. Christophe Mallet interrogeait le chanteur à Melbourne, c'était en 2013.
Cher auditeur, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives. Alors aujourd'hui, on a l'énorme plaisir dans le programme en français de recevoir un des chanteurs qui fait partie d'un groupe que j'adore, c'est Amadou et Mariam, et on a le plaisir de parler à Amadou. Bonjour.
Bonjour. On s'était parlé au téléphone, vous êtes là maintenant en Australie, oui, ça vous faisait plaisir de venir?
Ah oui, ça nous a fait énormément plaisir d'être là, et je pense que le public il est chaud, et ça nous a fait un bon espoir.
Ce spectacle, Eclipse, vous pouvez nous le décrire en quelques mots? C'est quoi exactement Eclipse?
Eclipse, c'est un concept qui fait qu'on fait un concert dans le noir, où on éteint toutes les lumières pour que les gens soient au même niveau que nous en tant que handicapés visuels, pour avoir d'autres repères, donc d'autres façons d'imaginer, de voir les choses et d'écouter, de se concentrer sur la musique. Donc en dehors de la musique, il y a les odeurs, après les odeurs, il y a les bruits du matin jusqu'au soir. Après, il y a quelqu'un qui raconte notre histoire du début jusqu'à nos jours. Donc, c'est beaucoup émouvant, tous les périples qu'on a fait de Bamako à Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire à Paris, de Paris à l'international et au mondial surtout.
Le Mali, c'est un pays qui vous touche au cœur. Est-ce que vous avez la chance de rencontrer les communautés maliennes et peut-être plus loin les communautés africaines quand vous êtes en voyage comme ça, aussi loin de chez vous, de vos terres en Australie?
Oui, des fois...
Pas tout le temps, mais des fois on rencontre les Maliens. Donc des fois ils viennent au concert aussi, ils assistent aussi.
Et ça fait plaisir, ça?
Ça oui. Fait beaucoup plaisir, vraiment. Oui, c'est ce qu'on aime.
Oui, notre première fois de venir là en Australie, on a rencontré beaucoup
plein de Maliens.
Oui. On s'était demandé comment ils s'en sont arrivés jusqu'à là. Donc il y a toute une bande, une vingtaine de personnes qui nous ont rejoints dans notre hôtel. Oui. On a discuté, on a bavardé ensemble. Je pense que ça fait plaisir de retrouver les siens en dehors du pays.
Pour vous aussi, Mariam?
Oui, pour moi, c'est la même chose. Oui. J'aime ça.
D'accord. Ce Melbourne Festival, vous attendez quoi exactement? Le public, là, il est chaud sur ce concert-là. Ça veut dire que vous avez un peu l'habitude des publics comme ça. Et est-ce que vous attendez, c'est un public un peu spécial, le public australien ou pas?
Bon, on a beaucoup l'habitude du show.
Des fois, les gens sont calmes au début, après, ils chantent avec nous souvent. Mais ici, aujourd'hui, vraiment, ça m'a fait plaisir parce que le public est chaud. Je crois que demain soir, ce serait la même chose.
Merci, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Moi, je vous verrai demain soir. Ça sera super sympa. Merci.
Merci bien.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
13h51 sur SBS Radio, et on vous emmène à Paris justement avec un nouveau reportage de notre radio partenaire Radio France Internationale. Dans le sillage des déclarations problématiques d'Elon Musk et de son virage trumpiste, de nombreuses personnes tentent de se séparer de leur véhicule Tesla. Un reportage de Pénélope Lemoguen.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Se séparer de sa Tesla. Alberto, qui travaille dans un quartier de bureau au nord-ouest de Paris, y songeait depuis le rachat de Twitter devenu X par Elon Musk. Et c'est désormais chose faite.
J'ai vendu ma Tesla modèle Y en fin d'année 2024. L'élection de Trump et l'implication de Musk dans la campagne électorale et ce qui en a suivi a fini de me décider en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, si Musk n'est plus à la tête de Tesla, je ne retournerai pas chez Tesla. Mais à date, je pense qu'on ne peut pas cautionner ce qu'il fait. Quoi.
Une opinion partagée par Adrien, qui jette un regard quelque peu désenchanté vers sa voiture. Il a décidé de la vendre pour des raisons personnelles, mais s'il n'a pas encore choisi son prochain véhicule, une chose est sûre...
Mais je n'achèterai pas de Tesla. La place qu'a pris Elon Musk dans l'actualité, là, c'est vrai que toutes ses idées, ça passe pas vraiment, donc... Financer son idéologie de fou furieux, c'est très compliqué.
Ils étaient pourtant attachés à la marque. C'est l'intérêt d'Alberto pour l'innovation technologique qu'il avait persuadé d'opter pour le constructeur il y a 4 ans.
J'étais plutôt convaincu par le concept, plutôt une image d'une marque avant-gardiste, en avance sur tous les autres.
Une image aujourd'hui écornée. Cyril, collègue d'Alberto, qui vend sa Tesla achetée d'occasion il y a un peu plus d'un an, peut en témoigner.
Vous voulez rentrer?
On est passé de, entre guillemets, bobo écolo à limite d'extrême droite nazie.
Rayures, jets de peinture, incendies, certains véhicules Tesla ont été ciblés par des militants anti-Elon Musk. Des événements qui comptent aussi dans la décision de boycotter la marque.
Il y a aussi la crainte de se faire abîmer la voiture et ou qu'elle soit peut-être un peu moins vendable plus tard, ce qui nous donne un peu raison quand on voit tout ce qu'il y a sur les prix de revente, sur le nombre d'annonces.
Trop de voitures alors que la demande recule. Sur Le Bon Coin, plateforme de petites annonces, le prix moyen des Tesla a baissé d'environ 3000 euros depuis janvier.
Avec tout ce qui se passe et un peu le bashing de Tesla, la cote a vraiment beaucoup baissé. À l'heure actuelle, elle est cotée à environ 28 000 euros sur la cote Argus, la cote officielle. Et à titre d'exemple, j'ai une concession BMW qui me propose une reprise à 17 000 euros. Donc moi, c'est pas possible. Voilà.
Revendre sa voiture par désaccord avec Musk, oui, mais pas à n'importe quel prix. Cyril a finalement décidé de garder son véhicule encore quelques temps, en espérant que le marché reprenne des couleurs.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
. 13h57, c'est l'heure du rappel des titres dans votre programme en français. Journée noire pour les marchés boursiers ce lundi, alors que Donald Trump multiplie les annonces de taxes douanières sur les importations aux États-Unis, les bourses s'affolent et chutent de manière importante en Europe et en Asie. Le Croissant Rouge palestinien réclame des réponses à Israël après la mort de 15 secouristes dans la bande de Gaza le mois dernier. Le président du Croissant Rouge accuse l'armée israélienne d'avoir intentionnellement ciblé l'équipe de secouristes dont un membre reste porté disparu à ce jour. Et puis en Australie, le Premier ministre Anthony Albanese affronte ce soir le leader de l'opposition Peter Dutton dans un premier débat télévisé. La campagne pour l'élection fédérale du mois prochain est plus que jamais lancée. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french et sur toutes les plateformes de podcast. J'ai été très heureux de passer cette nouvelle heure en votre compagnie. Votre prochain rendez-vous avec le programme en français en direct, ce sera ce jeudi, même fréquence, même heure. On se quitte en musique avec cette reprise de Julien Doré, reprise du tube « Toutes les femmes de ta vie » du groupe L5. Excellent mardi après-midi sur les ondes d'SBS Radio.
Je préfère quand nous opposons mon rire. L'amour a tellement de visages. À toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages?
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.